Tendance première,
Véronique Thiberguien.
Bonjour Catherine Gillin.
Bonjour Véronique Thiberguien.
Neurologue, on va parler avec vous de la maladie d'Alzheimer. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. On en profite pour revenir avec vous sur certains aspects, notamment diagnostic. Mais avant ça, vous m'avez parlé, alors c'est vous qui m'en avez parlé, parce qu'il m'a un peu échappé ce livre, et finalement, heureusement, un livre qui est paru sur la maladie d'Alzheimer et qui dit « La vieillesse n'est pas une maladie, jusque-là tout va bien », mais c'est sous-titré « Alzheimer, un diagnostic bien commode » et c'est paru aux éditions Albin Michel. Alors, c'est quand même une mode aussi maintenant de dire que les maladies ne sont pas des maladies.
Tout à fait. Mmh.
Dans le cadre d'Alzheimer, alors vous avez lu le livre.
Mais je trouve que déjà le titre très ambivalent et dit tout. Évidemment que la vieillesse n'est pas une maladie, c'est un état physiologique. Nous changeons, enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes avançant dans l'âge, vieux, entre guillemets. Physiologiquement, nous ne sommes plus... Nous changeons, nous nous modifions. Donc ça, ce n'est pas effectivement une maladie. Et puis, l'Alzheimer, ce n'est pas que chez des personnes âgées aussi. Donc, j'ai lu son livre parce qu'effectivement, je voulais voir quels étaient les arguments de ce monsieur qui est quand même médecin. Il est généraliste et il, manifestement, parce qu'il n'y a pas de biographie malheureusement, je pense qu'il a une maison de repos pour personnes âgées. Et on comprend à la fin du livre que sa maman a vécu un Alzheimer. Et je pense qu'émotionnellement, il a été fort perturbé par peut-être le comportement de certains médecins ou de certains corps médicaux. Ça, on sait qu'on l'a dans tous les niveaux. Mais il fait un amalgame terrible. Il dit, par exemple, à un moment donné, il faut donner un médicament ou être à l'écoute du patient. Non, nous, neurologues, on donne le médicament et on écoute le patient. Il dit, pourquoi on dit qu'il y a des stades précliniques et des stades cliniques alors que quand on a le paludisme, on est malade? Mais ce n'est pas du tout la même chose. Le paludisme est une infection. Vous la contractez, votre corps, tout le sang est atteint. L'Alzheimer fait partie des pathologies qu'on appelle les démences, et je vous rappelle qu'il y a d'autres démences que de type Alzheimer, et il s'agit de maladies neurodégénératives, c'est-à-dire qu'à partir d'un état physiologique normal, se crée une cascade d'altérations qui finiront par entraîner un dysfonctionnement. C'est ça une maladie neurodégénérative. Et donc ça évolue très lentement. D'où effectivement des difficultés diagnostiques. Ça, on est bien d'accord et on va justement précisément en parler. Mais donc, non, la vieillesse n'est pas une maladie, effectivement. Et il y a des personnes très 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 âgées qui n'ont pas du tout d'Alzheimer. Et non, Alzheimer n'est pas un diagnostic bien commode du tout. C'est une maladie réelle et qui, en plus, je vous le rappelle, peut toucher des personnes jeunes. Oui. Il y a, surtout dans les maladies d'Alzheimer génétique, des cas où on a des patients qui ont la vingtaine, la trentaine.
J'ai justement vu passer une affiche à l'occasion de cette journée mondiale de cette année en 2018 et c'est une jeune fille qui est sur l'affiche et il est indiqué « Elle a la maladie d'Alzheimer ». Pour montrer à quel point, effectivement, parmi les clichés qui circulent encore sur la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, c'est une maladie de personnes âgées. Non, c'est une maladie qui peut toucher plus rarement, certes, mais des personnes beaucoup moins âgées, voire très jeunes.
Oui. Alors, pourquoi ? Parce que, finalement, on le sait, la maladie d'Alzheimer, comme tous ces processus très évolués des maladies neurodégénératives, c'est toujours, si vous voulez, c'est comme s'il y avait des tas de pièces d'un puzzle. Il y a des prédispositions génétiques évidentes, d'où les maladies chez les personnes jeunes. Dans ces prédispositions génétiques, on va rajouter des facteurs le plus souvent de conditions de vie. Et on sait très très bien que tous les facteurs de risque vasculaire, le diabète, l'obésité sont des pourvoyeurs. Les troubles du sommeil aussi, on en avait parlé dans les émissions du sommeil. Et qu'à partir de là, plus encore sans doute d'autres agents, peut-être même extérieurs, le puzzle va petit à petit se former pour... À partir aussi, ça c'est important de comprendre, à partir d'un certain seuil, d'un certain degré d'atteinte des neurones et des altérations typiques, provoquer les symptômes cliniques. Donc il y a toute une cascade événementielle qui prend des années, ça prend sans doute au moins 15 ans avant que la maladie se déclare. Et puis les symptômes vont apparaître. Alors oui, c'est vrai qu'elle est plus volontiers liées à l'âge. On sait que vers la cinquantaine, on est un cas sur 4000, mais après 80 ans, on est pratiquement à une personne sur 4 sur 5. Pourquoi ? Parce que précisément, tous les facteurs de risque vasculaire notamment, les facteurs de risque de sommeil, etc., jouent de plus en plus un rôle péjoratif avec l'âge. Autre argument intéressant, on dit que c'est une maladie liée à notre société.
Oui.
Oui, dans la société économique dans laquelle on vit, où nous n'avons pas une bonne hygiène de vie, on a vu une explosion du nombre de maladies d'Alzheimer. Mais, depuis les 10-15 dernières années, le nombre diminue chez nous. Alors que dans les pays sous-développés, où ils commencent à prendre nos mauvaises habitudes de civilisation, la maladie d'Alzheimer augmente. Donc, qu'on arrête de stigmatiser, de dire c'est notre façon de ne pas accepter les vieux dans notre société. Ça n'est pas vrai du tout. Comme par exemple dans le livre aussi, il dit maintenant, on planque tous les vieux dans les maisons de repos et puis en Afrique, on ne le fait pas. Mais je suis désolée, économiquement, on a tout à fait changé. C'est vrai qu'il y a une ou deux générations, les femmes ne travaillaient pas, économiquement, la société allait mieux. Mais on n'avait pas de crèche non plus. Maintenant, ils vont tous dans les crèches, les petits bébés. Donc, tout ça...
Toute évolution n'est pas négative et n'entraîne pas une maladie, c'est ça ?
Non, pas du tout. Et donc, on arrête de faire un amalgame. Ouais. Alors, oui, c'est une maladie. C'est une démence, clairement.
Peut-être aussi que le nombre augmentant le nombre a augmenté plutôt aussi parce que le diagnostic s'est reprécisé.
Tout à fait.
Que nous avons un seuil aujourd'hui de vie qui est repoussé d'année en année.
Absolument.
On est au-delà de 87 ans maintenant en moyenne, ce qui est quand même, sur les 50 dernières années, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on a un nombre aussi de patients potentiels qui est plus important.
Absolument.
Et donc, voilà, c'est tous ces facteurs-là qui ont joué aussi. Le fait que on doive considérer ça comme une maladie, c'est aussi important pour la prise en charge, pour les proches, pour d'une part aussi le diagnostic, mais les traitements, la prise en charge, etc. C'est pas par convenance ou par commodité qu'on a appelé ça une maladie. Aussi, de ce fait-là, il y a tout un ensemble de choses.
Absolument. À partir du moment où l'on peut poser un diagnostic aussi précis que possible, on peut proposer aux patients tout ce qu'on a à disposition dans l'état actuel de la médecine, et puis aussi suivre l'évolution de la médecine et réinterpeller quand il y a des choses nouvelles qui arrivent, et puis aussi se rendre compte, de justement dans ces processus neurodégénératifs, de toute l'importance des facteurs environnementaux, internes ou externes favorisants, et d'éduquer la population à y prêter attention, effectivement, bien, bien avant. Parce que finalement, ce n'est pas à partir de 65-70 ans que vous devez vous dire « Aïe, 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 est-ce que je vais faire l'Alzheimer ? Je dois faire attention. » C'est dès la trentaine, dès la quarantaine. Le tournant se fait sans doute vers 45 ans. Oui. Donc, c'est vraiment une éducation d'une hygiène de vie. Et une fois que l'on a éventuellement une suspicion dans des plaintes de troubles de la mémoire ou de troubles de la personnalité, pouvoir essayer d'affiner au plus possible les diagnostics cliniques et paracliniques pour proposer les prises en charge spécifiques, qui sont effectivement pas seulement médicamenteuses. C'est très très important d'encadrer le patient et la famille du patient par rapport à ce type de maladie et par rapport au pronostic qu'on en connaît.
Diagnostic, on va y revenir justement dans un instant après Michel Polnareff, extrêmement important. Alors, on n'a pas des nouvelles machines miracles qui permettent un diagnostic hyper précis. Par contre, on a affiné les choses de manière assez extraordinaire ces dernières années. On va y revenir.
Tendance première.
Le docteur Catherine Gillin est avec nous. Elle est neurologue. On parle de... pas de dépistage, pardon. On pourrait commencer à en parler, mais en tout cas déjà de diagnostic avant peut-être d'en arriver au dépistage. Mais on va pas dire révolutionner le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ces dernières années, mais on a affiné avec une précision qui a permis aussi de découvrir à quel point le monde, entre guillemets, des maladies de démence s'est élargi également. Le spectre des maladies de démence s'est élargi.
Tout à fait. Et donc, on arrive vraiment au point crucial, le pain point de cette émission. Il faut essayer d'arriver à un diagnostic aussi précis que possible. D'abord, dans les les démences, je vous rappelle que c'est 60% des démences. Donc il y a 40% des gens qui développent une altération de leur fonction intellectuelle, mémoire, langage, comportement, etc., qui ne sont pas dus à la maladie d'Alzheimer. Première chose. Et puis, donc, je veux dire, qui ne sont pas d'Alzheimer, mais qui sont d'autres types de démences.
Oui.
Puis aussi, il y a des gens, des patients qui présentent des symptômes de cet ordre-là et qui font partie d'autres maladies. Par exemple, en psychiatrie, je pense que vous connaissez ce qu'on appelle le trouble bipolaire, donc anciennement appelé la maniaco-dépression. On sait maintenant qu'il y a un de ces types, le type 6, qui arrive chez la personne âgée et qui peut tout à fait, au départ, mimer ce qu'on appelle la démence frontotemporale. Il y a donc vraiment une utilité d'avoir des diagnostics, des outils diagnostiques aussi précis que possible pour savoir exactement ce qu'a le patient. Et à partir de là, de pouvoir arriver à lui proposer le traitement spécifique, mais avec des retards de diagnostic parfois qui mettent des années. D'où aussi une hyperspécialité. Et là, je rebondis tout de suite sur ce que vous avez lancé comme information. En France, effectivement, le ministre de la Santé a décidé de dérembourser les médicaments qu'on a actuellement pour aider, parce que ça ne traite pas, ça aide la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Pour deux raisons, à mon sens. La première raison principale, c'est qu'en France, les généralistes pouvaient les prescrire. Alors, j'ai rien contre les généralistes, mais chacun a sa spécialité. C'est-à-dire que sur base d'une impression clinique et d'un petit test de mémoire qui, franchement, n'est pas du tout spécifique, hop, on prescrivait des médicaments qui, il faut le reconnaître, sont très très chers.
Ah ouais.
Hein ?
Ouais.
En Belgique, le remboursement de ces médicaments est soumis à un diagnostic posé ou par un neurologue ou par un gériatre. On est déjà dans des personnes, des médecins dont la spécialité permet d'aller plus loin. Mais c'est vrai aussi, je vous le concède, que les critères que l'on nous demande de leur apporter, franchement, ils sont tout à fait dépassés. Jamais je ne me baserai sur ce qu'on appelle la petite échelle MMS pour poser un diagnostic d'Alzheimer. Jamais.
On vous demande à la limite de faire des choses qui vous paraissent, vous, en tant que neurologue aujourd'hui, plus adéquates, plus adaptées pour
le diagnostic. Elles ne sont plus adaptées du tout.
Ce n'est pas ça que vous utilisez, mais on vous demande de le faire, à la limite.
Oui, tout à fait. Alors, je le fais parce que comme ça, comme je suis quelqu'un d'honnête, voilà, je l'écris dans le dossier. Mais personnellement, et pour le patient, et pour la famille, je vais jusqu'au bout. Je veux être aussi sûr que possible. Et mes collègues neurologues, ils travaillent avec moi, on travaille tous de la même façon. Donc ça, c'est vraiment, et les gériatres aussi, ça c'est vraiment très 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 important de pouvoir essayer d'être aussi précis que possible. Et aussi autre chose, quand on prescrit ces médicaments, alors il y a des formes de maladie d'Alzheimer très différentes. Ça, on le sait aussi cliniquement. Et on va avoir des patients qui répondent, des patients qui ne répondent pas. La réponse, c'est pas du miracle, mais c'est quand même atténuer la descente pendant un an ou deux. Un an ou deux, quand vous avez plus de 80 ans, c'est déjà beaucoup. Ça permet aux personnes de mettre un petit peu leur vie en ordre, ça permet aux familles de parler, enfin, ça permet beaucoup de choses qui sont très importantes. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté. Quand le médicament ne marche pas ou quand il y a un échappement et que le patient se dégrade trop, de pouvoir affronter le patient et la famille, de dire, écoutez, on doit arrêter. Il faut le faire. Et ça n'est pas toujours fait non plus.
Pas fait parce que pas facile et pas forcément dans les mœurs aujourd'hui.
Oui, mais je comprends à ce moment-là l'éthique que l'INAMI nous demande d'avoir. Je suis tout à fait d'accord.
Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui affine le diagnostic au plus précis ?
Alors, donc, au niveau d'une part de l'examen clinique, c'est vraiment un diagnostic qui demande un interrogatoire extrêmement précis, bien sûr, du patient, tant que faire se peut, mais aussi de l'entourage, aussi large que possible. Pourquoi je dis aussi large ? Parce qu'il y a des conjoints qui vont minimiser. C'est très difficile.
Protègent.
Oui, c'est très très difficile d'accepter que votre conjoint change tout à fait de personnalité. C'est très douloureux et donc il y en a qui banalisent aussi très fort. Donc il faut essayer de contacter les médecins traitants qui connaissent bien, d'essayer d'avoir les enfants, de savoir comment ça se passe au téléphone avec des amis qui sont lointains. Donc vraiment d'élargir toutes les impressions cliniques. Puis au niveau des batteries des tests, donc à part le petit SMS, on en a des autres très beaucoup plus évolués.
Le SMS, non, le MMS.
Oui, c'est dans la plus intéressant. Parce que je trouve qu'il est short message.
Sur le MMS, on va le dire, c'est un test de mémoire, hein, c'est ça.
C'est un petit test de mémoire sur 30 points, mais qui est vraiment trop court et trop pas du tout spécifique à mon sens. Donc, enfin, au sens de beaucoup d'entre nous. Et donc, on élargit toutes nos batteries d'examen. Et puis, quand on a une suspicion diagnostique comme ça, clinique, il faut passer par l'imagerie. Imagerie résonance magnétique, mais en interpellant le neuroradiologue pour lui dire ce qu'on cherche. Parce qu'il ne faut pas lancer l'examen comme chez un tout-venant. Il y a des incidences, c'est tous des détails techniques, mais il faut programmer la machine pour essayer d'avoir le maximum d'informations possibles qui peuvent nous donner des arguments. Nous avons le scanner à positron, qui est une autre forme d'imagerie, qui est comme une scintigraphie où on vous injecte un produit qui va aller marquer spécifiquement le métabolisme cérébral. Et là, ce qui est très nouveau, c'est que ce produit que l'on injecte, qu'on appelle le ligand,
oui,
peut être maintenant de plus en plus spécifique. Le premier ligand qu'on utilise pour tous les scanners à positrons cérébraux, c'est le glucose, parce que le cerveau utilise énormément de glucose, donc déjà on a une carte métabolique très utile. Mais l'on peut maintenant avoir un ligand amyloïde, et vous savez qu'il y a des dépôts de cette substance protéique tout à fait anormale dans le cerveau, et on peut avoir, enfin c'est pas encore dans la clinique, mais ça existe et ça va arriver dans les applications, un ligand avec la protéine Tau, qui elle est une protéine anormale dans l'altération des neurones qui se créent dans la maladie.
Ouais.
Donc on approche de plus en plus de moyens spécifiques d'examen par scanner à positron.
Protéine Tau, qui est très récente aussi, hein, dont on a découvert les liens très récemment et les applications.
Alors, les liens très récents, donc c'est une équipe belge, il faut quand même le reconnaître, ouais, de l'ULB, c'était dans les années, fin des années 80.
Oui, mais c'est une formidable découverte.
Ah, ça, c'est extraordinaire.
Qui a permis des avancées.
Mais, alors, autre chose intéressante, ouais, on sait que l'amyloïde, dans l'Alzheimer, il faut de l'amyloïde, de la protéine Tau et une angiopathie amyloïde, mais la protéine Tau en soi est aussi responsable d'autres types de démences qu'on appelle les tauopathies. Et donc c'est sans doute l'association amyloïde-Tau qui est très, dont la synergie est très toxique et qui provoque la maladie d'Alzheimer. Et puis alors, dernier argument qui vraiment explose et qui est logique, c'est l'examen du liquide céphalo-rachidien. Donc en fait, le liquide céphalo-rachidien, c'est vraiment un liquide qui est à l'intérieur de notre système nerveux central. Il y a une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique entre l'intérieur du système nerveux central et le sang qui protège de l'extérieur. Donc il faut aller le prélever par ponction lombaire. C'est pas non plus un acte très traumatique. Et alors, dans le liquide céphalo-rachidien, nous avons des possibilités d'étudier ce qu'on appelle les marqueurs. Donc étudier s'il y a un marqueur biologique au niveau de l'amyloïde, et même dans l'amyloïde, on a des sous-classes que l'on peut commencer aussi à voir de façon spécifique. On peut étudier cette fameuse protéine Tau, et même maintenant, on utilise la protéine P-Tau, qui est encore plus spécifique, qui est vraiment celle d'avant, si je peux dire comme ça. On a encore d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore d'autres marqueurs inflammatoires, etc., etc., dont, comment dire ça, on peut étudier le pourcentage. Alors, le pourcentage de présence, l'association permet, et là, c'est ça qu'on parlait de prédictif, de mesurer où on en est dans l'évolution de la maladie, qui, je vous ai dit, prend des années, des années, des années. Et donc, on sait dire, tiens, le patient a commencé. Si c'est tout à fait normal, on sait qu'il ne l'a pas. Il peut avoir un début d'altération, il a commencé, où est-ce qu'il en est statistiquement, dans X années, il pourra sans doute développer la maladie. Ou bien, tiens, peut-être que ce ne sera pas un Alzheimer. Et puis aussi, en ajout de cela, on a des capacités maintenant d'étudier certaines cellules inflammatoires dans le liquide céphalo-rachidien. Et dans le sang, on peut aussi étudier certaines amyloïdes dans le sang. Et enfin, on a des analyses génétiques.
Et ça, on va y revenir, parce qu'on parlait de dépistage il y a quelques instants, et on va essayer de comprendre, après une page de pub, évidemment, si l'on peut faire du dépistage ou pas. Donc, on se retrouve juste après une page de publicité. Il est 11h33.
Tendance première. Véronique Thiberguer.
Vous le savez, vous en entendez peut-être régulièrement parler, parfois de manière très raccourcie, hein, parce qu'une fois qu'on lit un peu sur la chose, on s'aperçoit qu'on n'est pas non plus encore déjà dans un monde futuriste, mais vous pourriez, par simple prélèvement de salive, prédire à peu près l'ensemble des maladies que vous pourriez avoir durant votre vie. Pourrait-on prédire un jour que l'on va ou non avoir Alzheimer ? Docteur Catherine Gillin, on sait qu'il y a un terrain génétique. Maintenant, un terrain génétique, moi j'entends ça tout le temps et je ne sais plus très bien, on ne sait plus très bien.
Alors dans ce cas-là, ça veut dire un facteur favorisant, mais ce n'est pas du tout pour ça qu'on va le développer. Ouais. Ce n'est pas une maladie génétique, ce n'est pas la même chose. C'est des prédispositions qui peuvent, à l'occasion d'autres facteurs, finalement faire une somme, comme je disais tout à l'heure, le puzzle qui finit par se faire. Mmh. Mais ce n'est pas parce qu'on est porteur de ce gène-là qu'on va le développer.
On a une pièce du puzzle.
On a une des pièces du puzzle, qui en compte, un facteur de risque, mais c'est tout. Ce n'est pas une maladie génétique, il ne faut pas confondre.
Et pourrait-on prédire, quand même, toutes les personnes qui ont envie de le savoir, est-ce que je suis une personne qui va avoir Alzheimer ou pas ?
Grand débat. Alors déjà, dans les prédictions, comme pour toutes ces maladies-là, on est assez frileux dans le sens que comme il n'y a pas de traitement curatif, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on le sait. C'est très connu, par exemple, dans la démence de Huntington, qui est une maladie, elle, tout à fait génétique et autosomale dominante, donc on a un risque sur deux quand on est descendant. Cela se fait, mais cela se fait dans des équipes multidisciplinaires, avec des examens psychologiques pour vraiment être sûr, est-ce que vous avez envie de le savoir, comment vous allez le gérer, etc., etc. Et ça prend souvent un an, deux ans, voire plus, quand le patient le décide. Une fois qu'il a fait la prise de sang, il n'est pas encore obligé d'aller chercher le résultat. Donc c'est sûr que...
Et on a observé qu'un grand nombre, justement, de patients, un, ne faisaient pas la démarche, et que ceux qui faisaient la démarche, encore un grand nombre, n'allaient pas avoir
le résultat. N'y vont pas. Donc chacun a le droit de décider s'il a envie de le savoir ou pas. On n'est pas dans ce cas de figure-là, dans la maladie d'Alzheimer, puisque, comme on l'a dit, c'était finalement plus multifactoriel. Mm-hmm. Mais ce que l'on approche, ce n'est pas encore dans la clinique courante, hein, ça faut vraiment l'entendre, mais ce que l'on approche, c'est que quand il commence à avoir des plaintes mnésiques, mais qui effectivement ne sont pas simplement comme nous tous, hein, comme on court beaucoup, on demande à notre cerveau beaucoup trop de choses, donc on oublie où on met ses clés, on a oublié de téléphoner, on a oublié un rendez-vous, ça c'est pas grave, ça c'est de la logique, je crois que les gens oublient quelque chose de fondamental, c'est que la mémoire est vivante. La mémoire dépend de votre qualité de sommeil, dépend de votre émotion. Elle est très, très émotive, la mémoire. Elle va dépendre, justement, si vous lui donnez 100 000 informations en même temps ou si vous prenez le soin de le faire une à la fois et de l'intégrer avant de vous dire « je l'ai oublié ». Parce qu'un trouble de mémoire, c'est quand on a enregistré dans la mémoire et qu'on ne parvient pas à la restituer. Donc la distraction, ce n'est pas un trouble de mémoire. Mmh. Et en fait, dans notre société, nous sommes distraits parce qu'on fait trop de choses à la fois. Donc ça, c'est déjà important. Donc quand il y a des plaintes et qu'on peut argumenter que oui, tiens, il y a quelque chose quand même qui est un petit peu interpellant, alors on a à disposition dans la recherche, je me précise encore, des moyens de pouvoir évaluer justement les facteurs de risque. Est-ce qu'il y a ce gène prédisposant ? Est-ce que dans l'analyse du liquide céphalorachidien, il y a un taux déjà anormal de tel ou tel marqueur biologique ? Est-ce qu'au niveau de la prise de sang, il y a un taux anormal de tel ou tel marqueur biologique ? Est-ce qu'à l'IRM, on a un degré d'atrophie de la zone précisément qui s'occupe de la mémoire, etc. etc. Donc, tout ça est vraiment de plus en plus précis. Et l'optique d'ailleurs des chercheurs à travers le monde, c'est qu'en 2025, ce sera accessible à tout le monde.
Est-ce que l'enjeu finalement, et particulièrement en matière de neurologie aujourd'hui, parce que les choses vont très vite et qu'on a découvert une masse d'informations ces 20-30 dernières années, est-ce que l'enjeu de la société, du débat de la société, ne sera pas justement sur cette question de savoir ou pas, dans laquelle il faudra tenir compte évidemment de la volonté des patients, mais aussi du coût pour la société, le coût financier de la santé, de voir aussi jusqu'où ira-t-on en matière d'éthique, de déontologie pour la médecine, etc. Est-ce que ce n'est pas un des enjeux dans les 20 prochaines années ? Parce qu'il n'y a pas que pour la maladie d'Alzheimer que se pose cette question.
Tout
finalement.
À fait.
Il y en a pour beaucoup d'autres. Et il ne faudrait peut-être pas qu'on en arrive à un point où on se dit... Alors, ce qui va être défendu au départ, c'est le choix et le libre choix de tout un chacun, mais on n'est pas à l'abri d'une dérive où on dira « il faut que vous passiez ce test pour être engagé, pour avoir une assurance, pour avoir ci, pour avoir ça », et où ça deviendra conditionnant pour le reste de notre vie, finalement.
Écoutez, j'espère que non, parce que là, on tombe dans Kafka, quoi, mais...
C'est en tout cas une chose dont il va falloir parler.
Il faut en parler. Il faut certainement mettre un cadre éthique extrêmement rigoureux. D'ailleurs, ce cadre existe pour le moment, mais j'avoue que c'est très difficile d'en garder les garde-fous. Le nombre de patients qui me demandent d'expliquer à leur employeur ou à leur avocat ce qu'ils ont comme maladie, et je leur dis toujours non, dans votre intérêt, non, bien sûr que non. Vous avez un problème médical, là, vous pouvez dire j'ai un problème médical, mais pas lequel, ça vous regarde. Parce qu'effectivement, sinon, on n'engagera plus jamais, je ne sais pas moi, un épileptique passe au secours, il fait une crise, etc. Et ça. Non, non. Ça doit être encadré de façon rigoureuse et je crois qu'effectivement le débat politique et des médecins est très important à ce niveau-là.
En tout cas, pas mal de choses donc, qui ont déjà beaucoup changé par rapport à la maladie d'Alzheimer. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur les clichés. En tout cas, on reviendra de nous lundi prochain aussi dans Germain et nous 3.0 cette fois sur la maladie d'Alzheimer à travers une série de conférences, de débats qui vous seront donnés à l'occasion de la diffusion et de la projection d'un film en particulier. On y reviendra lundi prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Catherine Gillin, et à très vite, je l'espère, dans notre émission.
Merci.
Tendance première.